Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai l'honneur de vous présenter mon ami et collègue Guy Strumza, qui occupe la chaire Martin Buber à l'Université hébraïque de Jérusalem. Il est ici à double titre, d'abord à titre d'ami du collège, ceux parmi vous qui ont assisté il y a quelques années à son cycle de conférences, se rappelle qu'il nous a donné un très beau ensemble, un très bel ensemble de conférences sur la fin du sacrifice, qui a paru également en livre déjà, qui a été traduit en italien, et j'ai le numéro zéro de la traduction anglaise qui est arrivée ces jours-ci. Donc, c'est un vieil ami du collège et de beaucoup d'entre vous, et c'est bien sûr pour cela surtout qu'il vient, mais il vient également pour une autre raison, il vient dans le cadre des conventions internationales que le Collège de France a signées ces dernières années. Et l'une de ces conventions, nous lie désormais à l'Institut d'études avancées de Jérusalem. Et c'est également dans ce cadre qu'il y a des échanges. Et Guy Strumza est du côté littéraire le premier à faire cet échange. Un physicien qui est d'ailleurs l'actuel directeur de l'IAS, suivra en septembre, je crois, ou octobre. Guy Strumza est et je peux annoncer aussi en privé, qu'on a offert, et le recteur du département de l'Université hébraïque m'y autorise, on a offert récemment une chaire d'études des religions abrahamiques à Oxford à notre invité. Guy Strumza est connu comme un spécialiste des sagesses barbares, c'est-à-dire de la pensée juive sous toutes ses formes, la pensée juive, la pensée chrétienne, dans ses rapports avec le judaïsme, avec le gnosticisme, avec la philosophie de l'époque. Et il contribue donc à la fois à l'éclairage de cette pensée juive du début de notre ère, mettons, mais également aussi à la formation de l'identité chrétienne, de la pensée chrétienne. Et ses ouvrages sont un mélange des deux, donc le savoir juif d'un côté, mais aussi le savoir des chrétiens qui constitue à former la pensée proprement chrétienne, par exemple du côté du mysticisme aussi, de la prophétie. Et pendant ce cycle de conférences, il avait notamment averti de ne pas oublier dans les discours religieux des religions abrahamiques, l'influence du christianisme. Et il a aussi récemment publié un très beau texte sur le rire du Christ, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Bref, tout un ensemble de recherches autour de la pensée telle qu'elle se développait à Jérusalem et dans le monde judéo-chrétien au premier, au pluriel, siècle de notre ère. Vous ne serez donc pas étonnés de découvrir le titre de sa conférence d'aujourd'hui qui porte ses mémoires et visions chrétiennes de Jérusalem en contexte juif et islamique, en étendant cette fois-ci l'analyse vers les textes islamiques. Je te cède la parole.
Merci, John. Puisque c'est un barbare qui vous parle, vous excuserez mes barbarismes. Je vous demanderai de les excuser. Je vous présenterai un texte qui est inédit, bien sûr, que j'ai écrit en anglais comme l'épilogue d'un livre à paraître à Jérusalem, qui est une histoire du monde du Temple ou du Haram al-Sharif, dans les perspectives, depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui, un livre, peut-être le premier livre de ce genre, écrit par à la fois, où les chapitres sont écrits par des chercheurs israéliens juifs, palestiniens, musulmans et chrétiens, entre autres des collègues de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Ce texte, on m'a demandé d'écrire ce texte comme un épilogue du livre. Le livre traite, et ça s'appellera Between Heaven and Earth, parce que les discussions sur comment appeler cet endroit que les Juifs appellent le Mont du Temple et que les musulmans appellent Haram al-Sharif, par quoi commencer. Et donc ils ont trouvé cette solution, Between Heaven and Earth. Mon texte traite en même temps du Mont du Temple et, comme des poupées russes, si vous voulez, d'un élargissement du Mont du Temple et de Jérusalem elle-même. Donc je commencerai par le Mont du Temple et j'élargirai la discussion pour parler de Jérusalem. Ma présentation comporte quatre parties. La première partie, c'est sur l'idée d'un lieu saint et de sa surdétermination religieuse. La deuxième partie traitera de croyances eschatologiques dans le christianisme ancien, Jérusalem de la fin des temps. La troisième partie traitera de l'islamisation du Mont du Temple au début de l'islam, et au 7e siècle. Et la quatrième partie, et j'espère avoir le temps d'y toucher, traitera des Jérusalem mystiques à travers le Moyen-Âge latin et après. Alors, commençons par ce lieu saint et sa surdétermination religieuse. Du point de vue de l'historien comparatif des religions, la particularité du monde du Temple tient à sa persistance et à sa polyvalence. En contraste frappant avec l'omphalos de Delphes, le nombril de la Terre, cet axis mundi a, à travers toute l'histoire, symbolisé plus une frontière entre des civilisations en conflit que l'épicentre d'une culture. Il y a certes d'autres endroits qui sont sacrés à plus d'une tradition religieuse, mais aucun autre endroit sur Terre, à ce que je sais, n'a conservé à un tel degré, à travers les siècles, le profond pouvoir d'attraction pour toute une série de cultures qui se transforment en se remplaçant. Si l'histoire religieuse est en grande partie l'histoire des dévaluations et des réévaluations des différentes manifestations du sacré, on peut dire que le Mont du Temple représente une part significative de l'histoire des religions, en tout cas de l'Ouest. Pour plus de 2000 ans, depuis plus de 2000 ans au moins, le Mont du Temple a constitué un pôle d'attraction unique pour des mythes et des rituels en compétition qui à la fois se succèdent et se juxtaposent. De plus, la transmission du pouvoir sacré d'une tradition à une autre a toujours été composée par l'interaction entre ces traditions et la dialectique de leur transformation propre. Pour autant que nous sachions, le Mont du Temple doit sa première sacralité à la construction du temple de Salomon. En d'autres termes, cette sacralité est une sacralité acquise à un certain moment historique plutôt qu'une sacralité innée venue du fond des temps, comme certaines montagnes, par exemple, ou sources. Ce qui est peut-être plus étonnant est la retention de ce caractère sacré pour les Juifs même après les destructions répétées de leur temple, les Israélites puis les Juifs. Plutôt que de perdre son caractère sacré, il semble que le Mont du Temple soit devenu, plus que jamais avant, le lieu même de l'habitation de Dieu. Après la destruction du temple, le concept de Shechina, d'habitation, est un concept qui ne se développe que dans la littérature rabbinique après la destruction du temple. On trouve dans la Bible l'idée que Dieu réside dans le temple, mais le concept même de la Shechina, de la présence divine, est un concept qui n'existe qu'après la destruction. Tant que le temple était debout, point n'était besoin d'insister sur le fait que c'était le lieu où la divinité logeait. En un sens, le vide du mont du temple pendant la période byzantine reflète la nature aniconique de Dieu dans le temple détruit. En fait, à l'étonnement des païens, le temple des Juifs ne contenait ni statue de leur Dieu, ni même dans le Saint des Saints. Les païens pouvaient ainsi facilement considérer le temple comme étant vide. Entre parenthèses, à ce vide du temple fait écho, si l'on peut dire, le cénotaphe de la basilique de l'Anastasis et l'espace vide d'une mosquée, en particulier celle du Mihrab, la niche indiquant la Qibla, la direction de la Mecque. Depuis la destruction du Second Temple, cependant, les Juifs ne sont plus la seule communauté concernée avec le mont du Temple. Entre le IVe et le VIIe siècle, les intellectuels et les leaders chrétiens cherchèrent à gommer, à effacer la mémoire du Temple face à la splendeur de la basilique de l'Anastasis pour accomplir en un sens ce que les Romains appelaient la damnatio memoriae du mont nu. Pour les Juifs, malgré sa nudité, ce mont devint le lieu qui rappelait la gloire qu'avait été Jérusalem, un lieu de mémoire ou, si vous voulez, on pourrait même dire la mémoire du lieu. Malgré le rapport de Dion Cassius, le Capitolium d'Adrien ou Temple de Zeus, qui exista jusqu'au IVe siècle, n'était pas construit sur le mont du Temple. Bien qu'il y ait eu, semble-t-il, certaines statues impériales, le lieu saint resta plus ou moins désolé, indiquant pour les Juifs la future reconstruction du temple. Pour les chrétiens, au contraire, le temple jouerait certes un rôle dans le futur, mais seulement dans le futur eschatologique, quand l'Antichrist viendrait y établir son trône. La dimension eschatologique de la pensée chrétienne, cependant, s'affaiblit avec le temps, en particulier après Constantin. Ou du moins, c'est ce qu'il semblerait. Nous verrons plus loin que les choses sont plus complexes. Pour les Juifs, d'un autre côté, la reconstruction du temple non seulement était concevable en théorie, et bien sûr, on priait pour elle trois fois par jour, mais même, c'était quelque chose qu'on pouvait concevoir en pratique, comme l'ont montré les événements autour de l'autorisation donnée par l'empereur Julien l'Apostat, de reconstruire le temple en 361. Ainsi que souligné par les attitudes chrétiennes et juives pour le futur du mont du temple, il n'y a pas de lieu saint sans qu'il y ait de temps sacré. Avec le temple, quand le temple était là, les temps sacrés étaient ceux des sacrifices, ceux des jours saints, des fêtes. Après sa destruction, le temps sacré, l'axe temporel autour de laquelle l'histoire se développe, devint l'axe eschatologique, le temps eschatologique de sa reconstruction. Le mont du temple nu indique le bâtiment qui se trouvait là au passé, ou plutôt, il indique deux moments opposés dans le temps, au passé et au futur, quand le temple était debout et quand le temple sera reconstruit. Et pour Israël et pour l'humanité, le début et la fin de l'histoire, l'Urzeit et l'Endzeit. En un sens, on peut dire que la sacralité du temps est une projection de la sacralité de l'espace. Entre chrétiens et juifs, donc, le monde du temple est au cœur même d'une dialectique. La perte de l'un est le gain de l'autre. Pour les Juifs, la reconstruction du Temple annoncerait la venue du Messie, alors que pour les chrétiens, il annonçait celle de l'Antichrist. Ainsi, le mont du Temple joua et joue toujours un rôle dans des visions conflictuelles de la fin des temps, au cœur même de la compétition entre ces deux religions. Différents conflits entre civilisations mettant l'accent sur le Temple de Jérusalem ont eu lieu dans l'histoire, avaient déjà eu lieu. Les Babyloniens de l'Est, les Romains de l'Ouest, chacun à son tour avait détruit le Temple qui représentait l'identité d'un peuple vaincu. Plus tard, les envahisseurs du 7e siècle de notre ère, pour un temps bref mais violent, les Perses, puis les Arabes, amèneront, avec une vengeance, si l'on peut dire, ramèneront ces attentes eschatologiques de la fin des temps que les chrétiens croyaient avoir bannies de leur conscience. Deux vignettes très différentes, toutes les deux provenant de sources chrétiennes, symbolisent la réaction chrétienne à l'entrée triomphante du calife Omar à Jérusalem en 638. La première vignette le décrit encore tout poussiéreux de sa chevauchée, descendant de son cheval et être invité par le patriarche Sophron à venir prier dans l'église de l'Anastasis, le Saint-Sépulcre. D'après nos sources, Omar répondit poliment mais firmement par la négative. S'il avait accepté, ajoute-t-il, les musulmans auraient transformé l'église, après sa mort, en une mosquée. Et donc, par générosité et souci de tolérance religieuse, il refuse d'entrer au Saint-Sépulcre. La deuxième vignette nous décrit Sophron se lamentant en voyant Omar sur le mont du Temple. Pour lui, en fait, ce n'était rien que la... Que la désolation annoncée par le Christ. En transformant ce monument qu'on appelle d'habitude, faussement, la mosquée d'Omar en une église, baptisée Templum Salomonis, les croisés, au moins pour un temps, changèrent les paramètres de l'opposition entre le mont et l'Anastasis. En 1099, il pouvait s'exclamer « Ad Dominicum Sepulchrum Dehinc Etiam ad Templum » jusqu'à la tombe de notre Seigneur et de là jusqu'au Temple. Les croisés, en fait, nous rappellent l'incapacité ultime pour les chrétiens à effacer complètement, à oublier le Temple de Pierre, bien qu'ayant lui ayant préféré le Temple spirituel. Mais il est possible que cette incapacité n'était due qu'à la présence dominante de la Kubat Sakhra, du dôme du rocher, ce monument qui est encore aujourd'hui le plus beau monument de Jérusalem et qu'on appelle de façon impropre la mosquée d'Omar, construite avant la fin du 7e siècle. Deuxième partie, croyances eschatologiques. Passant de la pierre de fondation, la Even Hashetia, et du mont du Temple, et du Saint du Saint au Temple, Jérusalem et même la Terre Sainte tout entière sont comme une série de poupées russes. Toutes sont similaires, toutes reflètent le même caractère sacré. Afin de comprendre de façon plus précise les dimensions religieuses du mont du Temple, nous devons aussi réfléchir sur le pouvoir encapsulé dans le nom de Jérusalem, dans l'histoire et la mémoire religieuse. À l'origine, bien sûr, c'est du temple que Jérusalem reçoit son caractère sacré. Plus tard, cependant, la ville sainte deviendra emblématique du locus sacré où le temple avait existé et où il serait un jour reconstruit. Ce serait une erreur donc que de limiter notre enquête au mont du Temple lui-même sans attirer l'attention sur la dimension métaphorique de Jérusalem dans la mémoire culturelle. Ce concept de mémoire culturelle, culturelle Gedächtnis, a été développé en particulier par l'historien de l'art Abi Warburg entre les deux guerres mondiales. Afin d'être vraiment utile, je crois, ce concept devrait être relié à celui de mémoire collective, un terme inventé dans les années 30 par le sociologue français Maurice Alvax, au nom duquel cette salle est dédiée. Toute mémoire culturelle, ainsi, appartient ipso facto à la mémoire collective. Les premiers penseurs chrétiens, ceux que nous appelons les pères de l'Église, ont commencé un processus à travers lequel le nom de Jérusalem sera transformé en une icône centrale de la mémoire culturelle occidentale. Ce processus était directement relié à ce que Christoph Mark Schiess, un collègue de Berlin, a récemment appelé la dévaluation de Jérusalem dans le premier christianisme. La mémoire culturelle ne doit pas nécessairement être mise en opposition à la mémoire religieuse, mais plutôt à l'intensification radicale de la mémoire religieuse qu'on trouve dans l'eschatologie. Les attitudes chrétiennes anciennes envers Jérusalem semblent avoir été liées directement à la conception kyliaste ou millénariste établie sur l'annonciation du règne de Jésus pour un millénium qu'il y a été à Jérusalem. Bien que cette vue ne soit pas la seule connue, la seule acceptée, par exemple l'évêque africain Cyprien ne mentionne jamais Jérusalem au IIe siècle, cette conception eschatologique semble avoir été dominante dans le christianisme ancien. Ainsi qu'Ernst Käsemann le dit, l'apocalyptique est la mère de la théologie chrétienne. Au second siècle, Papias et Justin Martyr épouseront des vues millénaristes de cette sorte. L'attente enthousiaste d'un retour du Christ en gloire dans sa parousie et la restitution du passé, l'apocatastase, semble avoir été inséparablement liée à la foi chrétienne jusqu'au moins au milieu du second siècle. Cette tendance ne fut brisée que par Marcion et les opposants à Marcion, tels qu'Irénée, même eux, insistèrent sur la conception de la fin des temps. Pouvons-nous détecter le mécanisme par lequel de telles vues et de telles conceptions eschatologiques ont été contestées et ont cessé de dominer la tradition centrale du christianisme ancien? Alors, comme je l'ai dit, Marcion, contemporain de Justin au milieu du IIe siècle, rejette l'Ancien Testament et même de certaines parties essentielles, importantes du Nouveau Testament, en arguant que le christianisme est une religion d'une nature nouvelle qui ne possède pas de racines juives. Il semble avoir été le premier opposant aux idées kyliastes dans le christianisme ancien. Ainsi que Stefan Hyde l'a montré, l'argument autour du millénarisme au second siècle était lié directement à la controverse entre juifs et chrétiens. Les guerres juives, en particulier la révolte de Bar Kokhba en 132-135, forment le tréfonds de cette controverse et le débat autour du millénarisme et du rôle de Jérusalem, pour la plupart des pères de l'Église. La Terre Sainte resta la terre des Juifs, et la reconstruction du mont du Temple aurait signifié une victoire juive, au moins d'un point de vue spirituel. En effet, on peut retrouver des attitudes de ce genre parmi les divers groupes judéo-chrétiens tels que les ébionites, pour lesquels la reconstruction, restitutio, apocatastasis, nous disent les textes, du temple était un concept eschatologique central. Marcion rejeta tout ça, y compris les croyances dans l'eschaton et du rôle de Jérusalem à la fin des temps. Pour lui, de telles croyances étaient tout simplement sans rapport à la foi chrétienne. Ne nous étonnons donc pas si Irénée, pour lequel Marcion est l'ennemi suprême, insiste précisément sur l'eschatologie. Appelé à juste titre le théologien du chiliasme, Irénée est le grand écrivain de la Jérusalem eschatologique. Les derniers chapitres de son opus magnum contre les hérésies, et ces derniers chapitres sont dédiés à la bataille entre l'Antichrist et le Christ, qui précéderait le règne du Christ à Jérusalem, cette bataille ayant lieu sur les ruines du Temple, c'est-à-dire sur le mont du Temple. L'eschatologie est l'assurance essentielle contre une métaphorisation des croyances chrétiennes. Cette eschatologie possède un élément concret irrévocable. Ce n'est pas par hasard si Tertullien, vers la fin du IIe et au début du IIIe siècle, a établi l'antinomie entre Athènes et Jérusalem. Et ce n'est pas un hasard si ce même Tertullien finit par rejoindre le mouvement prophétique montaniste pour les disciples de Montan, on dit en français. Pour les disciples de Montan, à la fin du IIe siècle, une nouvelle prophétie qui était surtout prononcée par des femmes, annonça la descente imminente sur terre de la Jérusalem céleste. Le montanisme reflète avec une clarté particulière les relations directes entre le rôle joué sur terre ou aux cieux par Jérusalem à la fin des temps et l'intensité des attentes eschatologiques. L'idée chrétienne d'une translatio Jérusalemée, d'un voyage de Jérusalem, de la ville sainte, son voyage à travers l'espace, semble apparaître pour la première fois avec Montan, qui, selon Eusèbe, a donné le nom de Jérusalem à Peputza et Timion, deux petites villes de Phrygie. N'est-ce pas ? C'est sur Peputza et Timion que la Jérusalem céleste descendrait. Ainsi que Tertullien nous le confirme, lui qui connaissait donc les croyances montanistes, cela veut donc dire que Jérusalem terrestre descendrait sur ces petites villes phrygiennes. Le caractère hérétique des montanistes au IIIe siècle et l'invention chrétienne de la Terre Sainte au IVe siècle empêchèrent probablement l'implantation de ce concept de translatio Jérusalemée dans la littérature patristique. Et cependant, ce concept ne disparaîtra jamais complètement. À travers toute l'histoire chrétienne, il émerge comme par-ci, par-là, comme l'expression d'une eschatologie sectaire dans des phénomènes tels que ceux des Hussites, avec la reconstitution de la Terre Sainte dans la Bohème du XVe siècle, la Tabor des Taborites, les attentes de la nouvelle, des sectaires de la Nouvelle Sion dans la Russie du XIXe siècle et pour la descente de la Jérusalem céleste. Si la Nouvelle Jérusalem peut descendre des cieux sur Peputza, pourquoi, qui a besoin encore de la ville de David ? En fait, les Nouvelles Sion existent dans différents concepts culturels. Un cas fameux est celui des églises sculptées dans le rocher à Lalibela, en Éthiopie. cette nouvelle Jérusalem devint un centre majeur de pèlerinage aux périodes auxquelles Aksum était inaccessible. Aujourd'hui, nous pouvons penser en particulier aux églises baptistes du sud des États-Unis ou dans l'Afrique noire, ou aux églises swedenborgiennes de la Nouvelle Jérusalem. L'échec des mouvements apocalyptiques chrétiens, illustré par la perception des montanistes comme hérétiques et par le repoussement de la fin des temps et de la parousie du Christ, eut des implications, a des implications directes pour les représentations de Jérusalem, plutôt que des locations alternatives terrestres ou de l'idée de rénovation eschatologique, c'est la métaphore d'une Jérusalem spirituelle qui devait devenir prévalente dans la pensée chrétienne ancienne. Cette Jérusalem est la véritable patrie des chrétiens, et c'est aux cieux selon Révélation 21:2, la nouvelle Jérusalem devait descendre, c'est aux cieux qu'elle se trouve. À cet égard, les auteurs chrétiens anciens suivaient les traces de l'apocalyptique juive. Dans le quatrième livre d'Esdras, un texte juif rédigé vers la fin du 1er siècle de notre ère, l'élément eschatologique est toujours proéminent. Jérusalem serait établie par Dieu à l'époque messianique. L'Apocalypse syriaque de Baruch affaiblit cet élément en décrivant la Jérusalem céleste comme ayant été préparée par Dieu à l'origine du monde, indiquant ainsi la relation directe entre les origines du monde et la fin des temps. La transformation de la cité idéale est terminée et complète à la fin du IIe siècle avec Clément d'Alexandrie, qui nous rappelle que les stoïciens faisaient allusion aux cités, se référaient aux cieux comme étant la cité véritable, la véritable polis. Pour Clément, comme chrétien, le parallèle évident à la Jérusalem, à la cité céleste des stoïciens, est la Jérusalem céleste, qu'il appelle « ma Jérusalem ». Nous touchons ici aux racines de la conception mystique de Jérusalem. Origène développe les vues de Clément sur la ville sainte, polis, Jérusalem, dont le nom hébreu, Yerushalayim, est interprété pour lui comme signifiant vision de paix, Yir'e Shalom, ne peut vouloir dire que l'Église, mais aussi, fait allusion évidemment à l'Église, mais aussi dans un sens tropologique, à l'âme. Une interprétation allégorique similaire apparaît dans les écrits de Didyme l'aveugle, un origéniste chrétien du IVe siècle. Pour Didyme, aussi, lui aussi, la signification de Jérusalem a trois composantes. La première, c'est l'âme vertueuse, la deuxième, c'est l'Église, et la troisième, c'est la cité céleste du Dieu vivant. Nous retournerons à cette vision de paix, visio pacis, métaphore de Jérusalem à travers les âges. Une autre métaphore formative semble venir directement de Paul. La Jérusalem éternelle, mère des chrétiens, est aussi appelée libre Eleuthera, Galatiens 4, 26. Pour Marcion et pour les gnostiques, tout l'héritage juif était une pierre d'achoppement sur la voie d'un christianisme véritablement émancipé. Les gnostiques n'avaient pas besoin des attentes eschatologiques juives traditionnelles, puisqu'ils affirmaient vivre dans un temps sauvé, dans le temps sauvé de l'eschatologie réalisée. Dans leur lutte contre de telles objections, les pères de l'Église, après Irénée, affirment l'un après l'autre précisément les croyances dans la parousie des Christ et la bataille finale, décisive, entre les forces du bien et les forces du mal à la fin des temps. Mais de tels espoirs sont aussi ceux des Juifs et ceux des judéo-chrétiens avec lesquels les pères de l'Église sont aussi engagés dans une compétition intense pour une compréhension adéquate des Écritures. Ainsi, concernant Jérusalem, nous pouvons observer deux phénomènes distincts dans le christianisme ancien. Le premier est la distinction qui se fait de plus en plus claire avec le temps, entre la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Cette distinction, qui, je le répète, est d'origine juive, reçut une impulsion nouvelle avec les écrits chrétiens, déjà chez saint Paul. Les deux Jérusalem devinrent complètement dissociées l'une de l'autre, comme elles ne l'avaient jamais été dans les écrits juifs. La Jérusalem terrestre resta identifiée essentiellement avec la ville des Juifs, avec la ville de ceux qui avaient tué le Christ et dont le temple avait été détruit comme en punition divine. Ce temple ne serait jamais reconstruit. Et je ne vis pas de temple dans cette ville, ainsi que nous dit la Révélation, le livre de Révélation 21-22. La nouvelle Jérusalem, celle qui descendra des cieux, est une Jérusalem sans temple. La Jérusalem céleste devint très vite une métaphore pour la communauté des saints ou la cité divine, pour parler comme Augustin. Cette cité divine fut investie de tous les rêves et de toutes les qualités attribuées à Jérusalem dans la pensée eschatologique, mais très peu restait ici de la signification originelle du mot. La typologie augustinienne des deux villes trouve ses racines chez Tychonius, dont le commentaire sur l'Apocalypse se réfère à deux cités, Babylone et Jérusalem. Pour Augustin, Babylone représente le pouvoir et la politique, alors que la Jérusalem céleste, sur laquelle il chante « Quando de illa loquor finire nolo », quand je parle d'elle, je ne veux pas m'arrêter, représente l'Église, la femme, l'épouse du Christ. Babylone se réfère à la vie dans le présent, dans ce monde-ci, Jérusalem à la vie future dans laquelle les limites du temps seront dépassées par Dieu et dans laquelle Dieu sera loué pour toujours, in secula seculorum. L'influence, il n'est pas besoin d'insister sur l'influence capitale de cette typologie sur les perceptions médiévales. Le deuxième phénomène dans le christianisme ancien autour de Jérusalem est l'affaiblissement des croyances eschatologiques, qui est exprimé dans l'érosion progressive du IIe au IVe siècle à l'attente de la parousie de la deuxième venue en gloire du Christ. Ainsi, il devint de plus en plus difficile de conserver un espoir intense dans un retour imminent, et le message chrétien devint de plus en plus inscrit dans le passé. Avec l'effacement progressif de ce futur, Jérusalem elle-même, une petite ville marginale dans l'Empire, avec un temple détruit pour toujours et le Golgotha à son centre, devait perdre une bonne partie de sa signification. De façon paradoxale, moins la ville de Jérusalem est importante, plus le nom de Jérusalem semble gagner en pouvoir évocatif. Dans le christianisme de l'Antiquité tardive, en fait, le christianisme de l'Antiquité tardive nous a conservé la résonance puissante de Jérusalem à travers toute la culture européenne, à l'est comme à l'ouest. Jérusalem était maintenant Rome, dans les mots de Jérôme, pour parler comme Jérôme, « Romam factam Hierosolimam ». C'était aussi Byzance. Constantinople est souvent appelée la seconde Jérusalem, alors que Moscou, plus tard, deviendrait la troisième Jérusalem. Le monde entier deviendrait Jérusalem. C'est littéralement vrai dans le commentaire de l'Apocalypse écrit par Victorin de Petovio, Ptuj, dans la Slovénie d'aujourd'hui, au IVe siècle. À la fin du temps, Jérusalem s'étendra pour couvrir toute la face de l'univers. Nous trouvons, entre parenthèses, de telles conceptions aussi dans la littérature rabbinique. Entre le IVe et le VIe siècle, des ouvrages architecturaux majeurs s'efforcerait à offrir des versions christianisées du temple juif détruit. Eusèbe, l'évêque de Césarée Maritime, qui était le héros spirituel de Constantin, nous décrit la basilique de l'Anastase comme, je cite, « le nouveau temple », alors que Justinien, entrant dans Hagia Sophia, Sainte Sophie à Constantinople, se serait exclamé « Je t'ai dépassé, ô Salomon ». J'ajoute que le professeur Kai Trampedach, le nouvel historien ancien, professeur d'histoire ancienne à Heidelberg, a récemment écrit un article, pas encore publié, essayant de démontrer, et ça me convainc parfaitement, que l'église Néa, construite par Justinien à Jérusalem au VIe siècle, est aussi un effort pour reconstruire une sorte de nouveau temple. On conçoit traditionnellement, on croit traditionnellement qu'à partir du IVe siècle, les croyances chiliastes et eschatologiques qui était tellement évidente dans les premiers stades du christianisme, s'était plus ou moins essoufflée. Et pourtant, ces tendances eschatologiques semblent réapparaître avec une force renouvelée au VIIe siècle, avec le même scénario étant de nouveau joué à Jérusalem, en particulier autour du monde du Temple. En fait, ce VIIe siècle est une période de transformation religieuse et politique dramatique au Moyen-Orient, au Proche-Orient, et a longtemps été reconnue comme un temps où les croyances eschatologiques étaient particulièrement actives dans l'Empire byzantin. Dans l'ancien Israël, nous avons appris chez Max Weber qu'une tension majeure enveloppait le temple et le service du temple, le charisme des prophètes vis-à-vis, en opposition à la routine des prêtres. Deux concepts radicalement différents de l'action religieuse étaient confrontés l'une à l'autre, l'une poussant au changement, l'autre insistant sur la stabilité. Au VIIe siècle de notre ère, des siècles après la destruction du temple, le lieu même où il avait été construit semble avoir été, une fois encore, le lieu, l'épicentre d'un mouvement prophétique. Au moins depuis la conquête de Jérusalem par les Sassanides en 614 et la capture de la Sainte-Croix, le monde chrétien était empli d'attentes de l'Endzeit, avec une imagerie traditionnelle de la guerre cosmique entre les forces de lumière et les forces de l'ombre. Les Byzantins furent lents à comprendre la véritable nature de la croyance des nouveaux conquérants. Je fais allusion aux musulmans, évidemment. Pendant trop longtemps, ils perçurent les Arabes comme des barbares venant du désert et Muhammad comme un faux prophète, dont la foi ne pouvait être comprise qu'à travers les catégories de la théologie chrétienne, c'est-à-dire seulement comme une hérésie, puisqu'il n'est ni un juif, ni un païen, il ne peut être qu'un hérétique chrétien. Ce qui deviendrait un conflit politique et religieux pendant des siècles, parfois plus ouvert, plus actif, parfois dormant, commença par un Big Bang résumé plus que par n'importe quelle autre chose, par la conquête de Jérusalem par les Arabes en 638 et les transformations dramatiques que cette conquête eut sur la topographie religieuse de la ville. Dans toute une série de publications importantes, des byzantinistes distingués, tels que le professeur Gilbert Dagron, qui nous fait l'honneur d'être ici, Avril Cameron, Cyril Mango et Vincent Desroches, nous ont appris beaucoup pour pouvoir nous donner une meilleure compréhension de l'interface complexe entre les Juifs et les chrétiens dans la Byzance du 7e siècle, en particulier par la perspective des textes grecs. Ces chercheurs et d'autres ont souligné l'importance renouvelée de la polémique entre les Juifs et les chrétiens dans l'Empire romain de l'Est. En particulier, ils ont insisté sur le rôle central de ces polémiques dans la Terre Sainte, dans la Ville Sainte et, à son cœur, le Mont du Temple, comme aussi l'impact direct que ces polémiques ont eu sur le programme islamique de reconstruction de Jérusalem. La démotion spirituelle du vieil Israël, Vétus Israël, par le nouvel Israël, Vérus Israël, a été représentée dans l'espace par la relocation du lieu saint du mont du Temple à l'est de la ville, dont le vide restait frappant, à la nouvelle basilique de l'Anastasis à l'ouest. Oleg Grabar a appelé ce processus de relocation une eslithosis, alors qu'Annabel Wharton fait allusion au gommage de la dimension juive de Jérusalem. La ville des conquérants. Les conquérants islamiques de la ville, cherchant à accomplir ce qu'on pourrait appeler de façon hegelienne une Aufhebung à la fois du judaïsme et du christianisme, replacèrent le centre sacré vers l'est sur le mont du Temple. Pour l'historiographe byzantin Théophane, il s'agit d'une prétention diabolique, de la prétention diabolique d'Omar. C'est la prétention diabolique d'Omar qui lui fait essayer d'émuler Salomon. Ainsi que Andreas Kaploni, le professeur d'arabe de Zurich, démontre dans un très beau livre, nous avons tout lieu de croire que les premiers leaders musulmans de Jérusalem ont eu l'intention de reconstruire le temple et même d'instituer un rituel de ce temple. Une telle perception des choses avait pour but de convaincre les Juifs que la fin des temps était proche et que le calife était le Messie qu'ils attendaient. Pendant la période oumayyade, au moins, le mont du Temple, qui n'était pas encore appelé Haram Sharif, était conçu comme le temple reconstruit en même temps qu'il s'agissait de la mosquée de Jérusalem. Si certains des Juifs, cependant, ont pu être tentés de replacer ces événements, de situer les événements dramatiques dans une perspective eschatologique, ils furent vite déçus. Pour eux, la construction d'une nouvelle sorte de temple sur le lieu de leur ancien temple fut vite perçu comme non moins un gommage de ce temple, de sa dimension juive, qu'avait été la dislocation chrétienne du sacré. De plus, puis tant que l'anastasis restait sur place, cette sainteté restait partagée et limitée sous le régime islamique. Le nouveau conflit de civilisation, si vous me permettez l'expression, entre les États impériaux chrétiens et islamiques ce nouveau conflit a été nourri, peut-on dire, dans le conflit d'interprétation judéo-chrétien, qui ne pouvait apparaître que représenté superficiellement de façon répétée des nouveaux arguments et une cause qui avait été entendue depuis longtemps. Cette polémique centrée sur l'interprétation des prophéties bibliques tournait surtout autour de l'image du Christ comme le Messie annoncé par les prophètes d'Israël. Pour les Juifs, ce Messie était encore à venir, alors que pour les chrétiens, il retournerait en pleine gloire et pour établir son royaume à la fin des temps. Pour les Kilias des premiers siècles, Jérusalem, en particulier le mont du Temple, était, comme nous l'avons dit, l'épicentre des événements cosmiques de la fin des temps. Le débat était centré sur l'héritage de la Terre Sainte et sa restauration pour les Juifs. Les premiers kyliastes chrétiens avaient des racines juives particulières, en particulier l'Antichrist est une figure nettement similaire au concept de faux prophète dans les sources juives chrétiennes. Pour les chrétiens, le Messie attendu par les Juifs ne pouvait être qu'un imposteur, l'Antichrist. Pour les Juifs, de l'autre côté, les Juifs croyaient qu'ils aient, les Juifs, d'un autre côté, croyaient qu'ils étaient gouvernés sous le régime chrétien par les croyants en un faux Messie. La victoire d'un côté voulait dire la défaite de l'autre. En termes de stratégie moderne, on peut parler de « zero-sum game ». L'expression la plus claire d'une revanche juive eût été le rétablissement, la reconstruction du temple. Pour les chrétiens, cela équivalait à la venue de l'Antichrist, qui était perçu comme, nous l'avons dit, comme établissant son trône pour 3 ans et demi sur les ruines du temple détruit. Dans la psyché chrétienne, cette menace, le souvenir de la grandeur, le souvenir de la grande peur qui avait été développée par l'autorisation qu'avait donnée Julien aux Juifs de reconstruire leur temple et le début de construction avant un tremblement de terre providentiel, cette grande peur ne s'était jamais complètement dissipée. Et maintenant, avec la conquête violente des Perses et son résultat humiliant, l'exil de la Sainte Croix, puis l'invasion réussie des barbares arabes, les vieilles questions revenaient de nouveau avec une urgence nouvelle. Ces Arabes qui venaient de leur désert du Sud affirmaient suivre la voie de leur prophète. Qui pouvait-il être ce prophète sinon le bras puissant des Juifs? Ce prophète et ces Arabes, ils étaient le bras puissant des Juifs, pour les chrétiens, venus réclamer leur prétendue possession de la Terre Sainte et de la Ville Sainte. De façon paradoxale, la grand-peur des chrétiens avait plus à faire au 7e siècle avec l'ombre des Juifs qu'avec l'invasion arabe. La conquête d'Omar de Jérusalem ne pouvait qu'attiser à la fois les craintes des chrétiens et les espoirs des juifs à de nouveaux niveaux d'intensité. L'historien arménien Sébéos, l'évêque de Bagratounik au 7e siècle, est l'une de nos meilleures sources, semble indiquer de façon claire que les Juifs commencèrent à reconstruire une structure sur le mont du Temple dans les premières années après la conquête. Je cite « Ce complot des rebelles juifs qui, trouvant support chez les Agarènes, donc les Arabes, pour un certain temps assez court, planifièrent la reconstruction du Temple de Salomon, ayant identifié le lieu du Saint des Saints. Ils construirent le Temple sans un piédestal pour leur servir de lieu de prière. Mais les Ismaélites envièrent les Juifs, les expulsèrent de l'endroit et nommèrent le même bâtiment leur propre lieu de prière. Et les Juifs construirent un temple pour leur culte ailleurs. Apparemment, la première mosquée d'Omar, la mosquée El-Aqsa, ne fut construite que plus tard. Pour les chrétiens, Muhammad, qui se croyait à la fois prophète, qui se présentait à la fois comme prophète et apôtre, n'était qu'un imposteur, un faux prophète. Pour les Juifs, l'affaire semble avoir été plus complexe. Dans leur perception, Muhammad pouvait avoir été prophète ou même messie. Ces deux titres, en effet, pouvaient être attachés à des figures non israélites, à des personnages non israélites, tels que Balaam, qui avait été prophète, et le Cyrus le Grand, qui avait été appelé dans la Bible, Isaïe, le Messie de Dieu. Les sources juives d'Arabie sont rares et difficiles à interpréter, mais il semble que pour certains juifs au moins, virent dans Muhammad un messie ou une figure pré-messianique. Pour les chrétiens, d'un autre côté, ce concept de messie ne pouvait que sembler étrange, puisque Christos, les traductions littérales en grec de l'hébreu Mashiach, ouin, ne pouvaient pour eux que faire allusion au Sauveur. D'après la Doctrina Jacobi, un texte grec essentiel, datant des débuts des conquêtes islamiques, les Juifs considérèrent Muhammad comme un faux prophète, pseudo-prophétesse. Cela pourrait sembler surprenant, puisque les Juifs concevaient les portes de la prophétie comme ayant été fermées depuis longtemps. Il se peut que les Juifs aient parlé de faux prophètes, de faux messies plutôt que de faux prophètes, et que les chrétiens, ne pouvant pas comprendre ce concept de faux messie, aient décidé que les Juifs parlaient de faux prophètes. D'autres textes, je vais terminer maintenant, l'heure est finie, je vais simplement résumer en quelques phrases, la quatrième partie que je n'aurai pas eu le temps de vous présenter. Je voulais simplement insister sur le fait que d'autres textes de la fin du 7e siècle, des textes hébraïques comme l'Apocalypse de Zérubbabel, nous parlent effectivement de ce concept de faux messie, Mashiach Sheker, et que aussi bien de l'Apocalypse syriaque du pseudo-méthode. Ces textes sont des textes essentiels parce que nous n'avons pas ailleurs de parallèle à ces concepts de Mashiach Sheker, faux prophète, en syriaque Mashiach Degala, ce concept de Degala, faux messie, deviendra la racine du concept arabe de Dajjal, qui est en fait l'antichrist chez les musulmans. La seule chose que je vais dire, c'est que nous avons un seul groupe religieux pour lequel prophète et messie sont identiques, pour lesquels le vrai messie est le vrai prophète. Il s'agit des judéo-chrétiens, des ébionites, pour lesquels Jésus est le vrai prophète de la fin des temps. Et il me semble que nous devons, je n'ai pas de preuves, mais certaines allusions indiquent que certaines sectes judéo-chrétiennes semblent, dont je suis sûr qu'elles existaient encore, nous avons des groupes judéo-chrétiens au 7e et au 8e siècle en Palestine de façon certaine, les travaux récents de Christian Robin et de l'épigraphie arabe d'Arabie, tout contemporain, nous laissent croire que différents mouvements monothéistes, qui ne sont ni juifs de façon claire, ni chrétiens de façon claire, existaient en Arabie à partir du IVe siècle, et il me semble que certains de ces mouvements qui ont influencé l'islam l'islam des tout débuts, devraient être cherchés du côté des judéo-chrétiens. Je sauterai ma quatrième partie sur les conceptions mystiques de Jérusalem à travers tout le Moyen-Âge et à l'époque moderne. Permettez-moi cependant de faire allusion ici à Guillaume Postel, qui était professeur au Collège de France, et pour lequel à la fin des siècles, à Jérusalem, serait établie une communauté, à la fois Jérôme Postel et le cardinal Nicolas de Cusanus, pour lequel, à la fin des temps, à Jérusalem, siégerait une convention, une conférence de sages juifs, chrétiens et musulmans qui réussiraient à établir sur terre la paix éternelle. Ce souhait de Nicolas Cusanus est pour moi une prière, et sur cette prière je termine. Je vous remercie.